sur ce thème donc du vivre ensemble. Alors, six mots pour comprendre notre temps. Voilà une expression qui est vraiment une expression de notre temps. C'est une expression donc récente. Hein. Vous savez que si vous ouvrez par exemple un dictionnaire des expressions usuelles, par exemple un dictionnaire rédigé par le bien célèbre maintenant Alain Rey, eh bien vous vous rendrez compte que cette expression est absente des dictionnaires qui précèdent les années 90. Donc nous sommes vraiment dans dans un espace donc temps, si je puis dire, extrêmement proche de nous. Avant 1990, alors bien sûr, vous trouvez vivre, vous trouvez même la forme substantivée le vivre, mais le vivre comme le boire, le manger, le vivre, etc., qui est une expression relativement ancienne, puisqu'elle date du XIe siècle, dit Alain Rey. Un peu de cuistrerie pour démarrer une conférence, ça ne fait jamais de mal. Mais en revanche, le vivre ensemble, eh bien, l'expression donc brille par son absence et elle apparaît pour la première fois. Ça, c'est un fait, me semble-t-il, à mettre en correspondance avec ce que mon éminent collègue nous a dit la fois dernière, c'est-à-dire qu'elle apparaît pour la première fois sous la plume des journalistes. Donc ce n'est pas un concept ou un pseudo-concept formé par les philosophes, pas même par ses amis et demis que sont les sociologues, mais donc c'est une notion produite donc dans l'univers de la communication. Et évidemment, elle est utilisée pour désigner, faute de mieux, ce qu'on peut appeler le délitement du lien social. Quand on s'interroge sur le lien social, quand on observe à quel point le tissu social semble déchiré, on déclare que ce qui est en cause, c'est le vivre ensemble. Et de fait, on nous a bien dit la fois dernière que le propre du langage de la communication, ce n'est jamais d'ouvrir le débat. Le propre du langage de la communication, c'est de mettre une évidence là où il pourrait y avoir une question. De telle sorte que le vivre ensemble devient l'Europe telle que De Gaulle l'imaginait. L'Europe. Eh bien, nos journalistes, nos sociologues, parfois même nos philosophes, sautent sur leur chaise dès qu'il s'agit donc d'interroger et de comprendre le délitement du lien social en disant « le vivre ensemble ». Évidemment, ici, ce qu'on désigne, c'est à la fois donc ce qui est en péril, ce qui est en jeu, ce qui est en cause, hein, dans un doux mélange. Ce fameux vivre ensemble, c'est à la fois donc ce qui est en péril, ce qui est en jeu, ce qui est en cause. C'est en même temps l'idéal qu'il faut sauver, comme ce pauvre donc soldat Ryan. Et notez bien que plus la situation se dégrade, c'est-à-dire personne n'est attentif au fait que en sautant sur sa chaise, je le ferai plusieurs fois dans la soirée, et en répétant « vivre ensemble », eh bien, personne ne songe au fait qu'on améliore, de quelconque manière que ce soit, la situation que l'on déplore. Mais, en revanche, ce qui est étonnant, c'est que plus la situation se dégrade et plus l'expression est convoquée, comme une sorte de tic de langage, donc, et comme la réponse préparée donc à nos inquiétudes. Cette expression donc réalise l'adhésion de tous, obtient pour ainsi dire spontanément l'adhésion de tous. L'expression, je le disais à l'instant, désarçonne donc la contradiction. Et Finkielkraut résume tout, pour ainsi dire, en déclarant la fréquence du mot traduit le désarroi d'une société qui voit la disparition de la chose.
C'est pas mal dit quand même, ça vaut le coup de le redire.
La fréquence du mot traduit le désarroi d'une société qui voit la disparition de la chose.
Et alors là, ce qui est très intéressant, c'est que nous découvrons une fonction spécifique du langage. Nous avons touché un peu de logique. Monsieur Chavelet donc, s'est amusé à jouer avec nos esprits en nous initiant donc à quelques figures du raisonnement. Eh bien, là, nous voyons apparaître en fait une fonction tout à fait spécifique du langage. Vous avez cru jusqu'à ce soir qu'un mot, c'était ce qui désignait une chose. Vous avez cru jusque-là, oui, à la fonction désignatrice du langage. Vous avez pensé qu'un mot, c'était ce qui désignait la chose. En fait, un mot ici, ce n'est pas ce qui désigne la chose, c'est ce qui se présente comme son substitut. Fonction de désignation, fonction magique de substitution. C'est-à-dire le mot pour la chose. Si on n'a pas la chose, au moins qu'on ait le mot. Je t'aime. Vous pensez que dans je t'aime, il y a une fonction de désignation ? Se mêle dans ce « je t'aime » une fonction de désignation, une fonction de substitution. J'ai pas la chose, qu'au moins que j'ai le mot. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est que là, on met au jour une fonction cachée du langage qui est finalement de nous aider. Voilà le vœu que nous adressons, voilà l'attente qui est la nôtre à l'égard du langage. Qu'il nous aide à recomposer le réel selon nos désirs. Nous ne demandons pas tant finalement au langage qu'il désigne le réel, mais qu'il le fasse exister conformément à notre désir. De telle sorte que comprendre les mots, c'est comprendre les désirs qui les portent. Que désirons-nous en disant « vivre ensemble » ? Voilà ce qui importe, voilà ce qui est susceptible de nous faire accéder à la signification de l'expression. Alors là, évidemment, je n'invente rien, cette idée n'est pas de moi, malheureusement. Cette idée que comprendre les mots, c'est comprendre les désirs qui les portent, je t'aime chérie, c'est pire encore donc, double illusion, illusion dans l'illusion. Évidemment, le grand homme, l'auteur qui nous a renseigné là-dessus et qui nous a déniaisé une bonne fois pour toutes d'une vision naïve du langage n'en déplaise à certains, eh bien c'est Nietzsche. Dans un tout petit traité que personne ne lit jamais, qui s'appelle « Vérité et mensonge au sens extramoral ». Je n'en dirai pas plus, j'aiguise votre curiosité en vous disant cela. Ce petit texte est merveilleux et donc comprendre le langage, c'est en fait donc comprendre le désir qui nous porte à utiliser tel mot plutôt que tel autre. Et Nietzsche revisite en fait toute la philosophie et toute la métaphysique en essayant justement de comprendre les concepts, les mots de la philosophie comme le témoignage d'un désir. Il refait la généalogie, en quelque sorte, du langage philosophique pour essayer de voir les désirs qui s'y cachent. Par exemple, un exemple, parce que sinon, vous ne pouvez pas vous laisser comme ça, ce n'est pas possible. Par exemple, le mot « substance », Nietzsche nous dit, il correspond à un rêve. Vous croyez qu'il désigne une réalité ? Vous croyez que la fonction de ce mot, c'est de désigner, de dénommer une réalité ? Celle d'une chose qui serait identique à elle-même, ce que nous avons vu la fois dernière. Mais Nietzsche nous dit, deux choses identiques à elles-mêmes, il n'y en a pas. C'est un monstre philosophique, pour ainsi dire. Mais ce monstre ne se comprend qu'eu égard au désir que nous avons d'éterniser les choses. Qu'il y ait une chose qui dure vraiment, chérie, je t'aime. Voilà ce que nous voulons. Voilà notre vœu. Qu'il y ait une réalité qui résiste à l'épreuve du temps. Voilà notre désir.
De telle sorte que Nietzsche nous dit, vous voyez, une bonne part du langage philosophique, substance, en est un bel exemple, trouve sa justification dans le fait que le philosophe désire que les choses soient identiques à elles-mêmes. Mais le pauvre diable, évidemment, est toujours obligé de constater que son rêve est à moitié réalisé et que dans l'être, il y a toujours du devenir qui circule. Bien. Donc, voilà donc pour ces quelques mots pour montrer l'actualité de la question. Et je voudrais maintenant faire quelques remarques sur simplement la forme de l'expression. Je ne m'étends pas trop sur ce point, mais enfin, c'est quand même intéressant, puisqu'on s'intéresse aux mots, d'essayer d'analyser donc leur forme. D'abord, vous remarquez qu'on met parfois un trait d'union entre vivre et ensemble. Pas toujours. Il semble que la correction orthographique voudrait que l'on ne mette pas de trait d'union entre le vivre et le ensemble, mais vous avez commencé à en mettre un, donc continuez. Bon. Alors, vivre ensemble, on met un trait d'union, pourquoi ? Ben, le trait d'union vient peut-être relier encore mieux vivre et ensemble. Le trait d'union vient, pour ainsi dire, exorciser le problème. Le trait d'union chercherait à solidariser encore mieux le vivre et l'ensemble, ce qui est le signe que l'ensemble est en train de se débiner sévèrement et qu'il faut à tout prix le retenir. Alors, pour réaliser donc ce prodige d'un vivre dont l'ensemble ne serait pas absent, eh bien, on utilise donc ce procédé syntaxique qui consiste donc à les lier par un trait d'union. Tel est notre rêve. Voilà un trait d'union rêvé. Voilà un trait d'union qui est la manifestation claire de notre désir. Alors pourquoi cet ensemble se débine ? Ben, vous le voyez bien, parce que c'est vivre pour soi. C'est vivre éventuellement contre les autres. Le trait d'union a ici la signification du tous, c'est-à-dire vivre tous ensemble. Tout, c'est ça, c'est vivre tous ensemble. Et ce n'est pas très étonnant finalement que l'expression surgisse dans les années 90, parce que dans les années 90 commence à se poser la question du communautarisme. Non pas une société qui serait toute ensemble, mais une société qui commence à être divisée, à être segmentée, à être crevassée par des communautés qui, pour ainsi dire, ne vivent pas ensemble, mais qui vivent les unes à côté des autres. Et donc le vivre ensemble vient exorciser ce vivre les uns à côté des autres. Comme si finalement nous vivions une postmodernité qui nous condamnait à vivre les uns à côté des autres. Nous connaissons bien péril que comporte ce vivre les uns à côté des autres. Nous voulons exorciser la violence ou le travers du communautarisme, et voulant exorciser ce communautarisme, eh bien, nous produisons l'idéal du vivre ensemble, et nous mettons un trait d'union pour dire qu'on y croit tous et que c'est tous ensemble. Nous verrons tout à l'heure pourquoi c'est un phénomène assez français, cette affaire-là. Mais je le laisserai peut-être pour le débat, parce que là, je suis parti pour 2 heures. Donc, j'avance. Donc, ça, c'est le premier point, si vous voulez un vivre ensemble avec un petit trait d'union. Ensuite, deuxièmement, les grammairiens qui sont ici, j'en vois un ici. Les grammairiens, les hellénistes qui sont ici, me diront curieuse construction. Le vivre ensemble, c'est-à-dire substantivation de l'infinitif d'un verbe. Alors je l'ai dit tout à l'heure, cette substantivation n'est pas indue dans la langue française. Le bien vivre, le savoir vivre, le vivre et le couvert, voilà des expressions donc, qui présentent déjà donc, une telle substantivation. En revanche, ce que je voudrais souligner, c'est que ce procédé a été très largement renforcé par la poésie et la philosophie du XXe siècle. Dans la mesure où cette poésie et cette philosophie a substantivé à tout va les infinitifs. Donc en un sens, vous voyez, certes c'est un mot journalistique, mais c'est un mot de journaliste qui a quelques souvenirs de la philosophie de Sartre, ou qui a quelques souvenirs de la philosophie de Merleau-Ponty, ou qui a quelques souvenirs de certains poèmes de René Char. Parce qu'alors, dans René Char, on trouve à Tire-Larigot le pleurer, le voir, le penser, l'émouvoir. La poésie de René Char est pleine donc de ces formules qui donc procèdent à la substantivation de l'infinitif du verbe. Et de même, si on ouvre Merleau-Ponty ou si on ouvre Sartre, eh bien, on constate aussi que ces auteurs abusent de l'exister, L'apostrophe ER, du le sentir. Ils disent pas le sentir, ou ce qui se sent, ou ça sent. Non, ils disent le sentir. Vous voyez, préfiguration de ce que nous verrons sur Nauséabond. La fonction du sentir. C'est moi qui vous ferai cet exposé sur la fonction du sentir. Je vous invite à venir nombreux. Donc, si vous voulez, là, c'est pas seulement finalement un tic de langage qui serait en quelque sorte l'affaire du langage de la communication, vous voyez, une espèce de réduction, d'ellipse, la manifestation d'une formule concise, le poids des mots, un mot bref qui contient finalement tout ce qu'il désigne d'un seul coup, qui touche d'un seul coup sa cible. Pas tout à fait, c'est assez injuste finalement de dire cela, car donc les philosophes ont été les premiers donc à utiliser ce procédé. Alors pourquoi ont-ils utilisé ce procédé qui consiste à dire le voir, le penser, l'exister, pas seulement pour faire les malins quand même, pas seulement pour distinguer, comme dirait Bourdieu, leur langage du langage commun. C'est pas seulement une stratégie de distinction, bien que les philosophes sont bien obligés d'utiliser aussi des stratégies de distinction. Maintenant qu'ils n'ont plus de distinction sociale, il leur faut bien trouver d'autres formes de distinction, et le langage en a été une. Pourquoi donc pourquoi ce procédé qui consiste à dire le vivre, l'exister, etc. Eh bien, parce que la philosophie du XXe siècle, je vais vous rappeler quelques souvenirs pour ceux peut-être qui sont loin de leur classe de philosophie, mais je vois qu'il y en a qui sont très proches de leur classe de philosophie, je les salue d'ailleurs, je salue mes élèves, et je les remercie d'être là, c'est toujours touchant, même si j'avais promis une bonne note, bon, aux gens qui viendraient, bon, ben bref, ça ce sont des procédés simples, pédagogiques, vraiment pédagogiques. Pourquoi donc ? Eh bien parce que la philosophie du XXe siècle, c'est une philosophie de la liberté. Et c'est fondamentalement une philosophie de la liberté dans le monde. C'est fondamentalement une philosophie de l'action. Ce que les philosophes veulent saisir, c'est la liberté en train de. C'est pas la liberté une fois qu'elle a fait. Non, ça ne les intéresse pas, ça. Ça, c'est la chosification, on est du côté des choses faites. Non, c'est en train de faire. La liberté en acte, la liberté saisie dans son acte. Alors, vous voyez, quand vous dites, par exemple, le sentir au lieu de la sensation, au lieu du senti même, vous voyez, quand vous dites le sentir, vous dites l'acte même de sentir. Vous dites l'acte dans sa saisie pure. Or, ce sera le propre d'un courant qui s'appelle la phénoménologie, de vouloir justement saisir l'acte dans sa réalité la plus pure, c'est-à-dire dégager de toute manifestation concrète, voir comment la chose se manifeste, ne pas l'avoir déjà manifestée, l'avoir dans le mouvement même de sa manifestation. Et c'est pourquoi donc les philosophes vont dire l'exister. C'est pas l'existence tout à fait, vous voyez, c'est le fait d'exister. Non, c'est pas tout à fait le fait d'exister, c'est l'exister en soi, vous voyez. C'est la confrontation brute de la liberté et du monde. Voilà. Alors, si vous ne comprenez pas ça, si ce que je viens de vous dire vous échappe complètement, n'ouvrez jamais un recueil de René Char. C'est le fond, en quelque sorte, intellectuel, à partir du moment, à partir duquel on peut comprendre donc René Char, lequel d'ailleurs n'a laissé à personne d'autre que lui le soin de se résumer et de résumer sa poésie dans ce merveilleux vers « L'acte est pur, même répété ». C'est l'ambition de la phénoménologie. Toute l'ambition de la phénoménologie est là, dans cette formule de René Char. Ça, c'était quelques remarques sur la forme. Maintenant, qu'est-ce qui est en débat? Et là, je compte sur vous ensuite donc pour challenger, comme on dit en bon français, les quelques propositions que je vais vous faire, dont je ne suis évidemment absolument pas sûr. Donc, je compte sur un débat viril mais loyal. Vivre ensemble. Viril, mais loyal. Est-ce que ça, c'est pas justement la formule même du vivre ensemble? Viril mais loyal. Et pas consensuel mais tordu. Viril mais loyal, et non pas consensuel mais tordu. Ou tordu parce que consensuel, ou faussement consensuel. Peut-être ça. Viril. Il faut donc que nous ayons un débat à la hauteur de l'exigence du vivre ensemble. Viril mais loyal. Alors, qu'est-ce qui est en débat? Ben là, les journalistes, les sociologues, on le reconnaît avec peine, mais ont quand même raison. C'est-à-dire que ce que cette expression « le vivre ensemble » donc vient désigner, c'est précisément sa panne. Donc, c'est ce que nous avons dit avec Finkielkraut, l'absence de la chose et la fréquence du mot. Bon, c'est-à-dire donc ce qu'on peut appeler l'effilochement du tissu social. Le désarroi, en fait, d'une société donc, qui voit la disparition du lien vivant qui unit l'ensemble de ses membres, tous ses membres, pas seulement quelques-uns de ses membres. Alors, je voudrais essayer, dans un premier temps, peut-être, de donner quelques raisons de cet effilochement. Et en donnant raison à l'effilochement du tissu social, je comprends au fond le désir qui anime l'expression « le vivre ensemble ». Et je comprends pourquoi finalement, comme le soldat Ryan, on veut sauver ce vivre ensemble. Quelles sont au fond les raisons de cet effilochement? Alors là, évidemment, on peut en parler 3 heures et je vous laisserai compléter les analyses. J'ai fait quelques choix, évidemment, bon, ce serait l'objet, vous le voyez, d'une conversation beaucoup plus longue. Peut-être pourrions-nous dire que cet effilochement du vivre ensemble est lié au caractère très conflictuel de la société. Pourquoi revendique-t-on le vivre ensemble? Pourquoi demande-t-on que le vivre ensemble soit l'objet de toute notre attention? Ben précisément parce que notre société serait plus conflictuelle, en quelque sorte, qu'elle n'a jamais été. Alors, si vous voulez comprendre la manière dont une société est conflictuelle, si vous voulez comprendre véritablement la manière dont une société est conflictuelle, ça me permet de rendre un hommage. Ce soir, il faut lire René Girard, le dernier grand penseur français est mort. Il vivait aux États-Unis. Il a enseigné toute sa vie à Stanford. Et vous trouverez bientôt donc Charlotte est là, donc je m'avance peut-être beaucoup. Vous trouverez bientôt sur le site, donc elle l'apprend en même temps que vous. C'est pour ça qu'elle fait un drôle de tête. Mais un article quand même sur René Girard, parce que le but du collège, c'est aussi de suivre un peu l'actualité philosophique, je veux dire. Et puis voilà, donc sur le site, vous devez trouver des éléments d'actualité. Et donc, on essaiera de mettre en ligne sans trop tarder un article donc, que j'ai rédigé il y a quelques années sur René Girard, et qui est à peu près suffisant pour se faire une idée donc, de sa doctrine. C'était vraiment un très grand penseur, et c'est vraiment le grand penseur de la violence sociale. C'est vraiment le grand penseur de la racine métaphysique du conflit. Donc, c'est pourquoi je me permets d'ouvrir une toute petite parenthèse. Donc, son plus grand ouvrage, vous le savez, c'est « La violence et le sacré ». Enfin, en tout cas, l'ouvrage vraiment de référence, l'ouvrage qui commande en quelque sorte tous les autres, par rapport auxquels tous les autres, finalement, sont des commentaires, en quelque sorte. Alors, donc, faut-il dire que notre société est plus conflictuelle, demandant un surcroît de vivre ensemble ? Je n'en crois rien. Je n'en crois rien. Je pense que cet argument est fallacieux. Pourquoi je ne le crois pas ? Au moins pour deux raisons. La première, c'est que nos sociétés modernes ont été, depuis fort longtemps, agitées, au moins tout au long du 19e et tout au long du 20e siècle, par de formidables querelles, par des conflits retentissants par rapport auxquels nos conflits sont des la roupie de Sansonnet. C'est misérable, la nature de nos débats, par rapport à ce qu'ont été les conflits de conviction. Je pense à l'Église et l'État, par exemple, au tournant du 19e et du 20e. Je pense à tous les conflits idéologiques autour du marxisme. Ça a été formidablement sanglant. Je pense à toutes les querelles de classe qui ont suivi. Donc soyons sérieux, ce n'est pas donc un surcroît en quelque sorte de conflit qui viendrait en quelque sorte déliter davantage encore le tissu social et donc revendiquer le renforcement du vivre ensemble. Je ne le crois pas pour une deuxième raison, c'est que je pense avec Pierre Manante, grand philosophe de la question politique, notre société moderne a été, est probablement plus consensuelle qu'elle n'a jamais été. Pierre Manante dit que notre époque est celle de l'unanimité. Et il dit qu'il faut remonter au grand schisme de l'Orient et de l'Occident pour retrouver une situation moins consensuelle que la nôtre. Donc, franchement, alors, bien sûr, il étaye ce raisonnement en disant que ce consensus s'opère autour de la problématique des droits de l'homme, autour de la problématique de la vision de l'homme. Bon. Il ne semble pas que nous soyons agités particulièrement par des conflits moraux, par des conflits politiques, tels que le niveau de conflit puisse appeler donc de manière magique, en quelque sorte, le renforcement du vivre ensemble. On pourrait relever une deuxième raison qui est plus subtile, qui est plus marrante, plus subtile, plus cachée, qui serait que notre société serait de plus en plus contractuelle. Alors ça, c'est très intéressant parce que c'est contre-intuitif. On pourrait dire, attendez, si elle est plus contractuelle, la contractualisation suppose l'égalité des contractants ou la relative égalité de ceux qui contractent et suppose qu'ils soient bien respectés comme sujets. C'est ça qu'on veut dans le vivre ensemble, se respecter les uns les autres. Donc si elle est contractuelle, cette société, elle nous plaît finalement, du point de vue du... C'est pas si simple. C'est pas si simple. Ce que je veux dire par là, c'est que une société de plus en plus contractuelle, c'est une société qui contractualise des relations qui jusque-là échappaient à la forme du contrat. Et on retrouve dès lors la belle distinction de Max Weber entre la Gemeinschaft et la Gesellschaft, entre la communauté et la société. Ce qui caractérise la communauté, dit Max Weber, c'est qu'il y a une empathie, c'est qu'il y a un lien historique, un lien sentimental, un lien d'appartenance qui lie tous les individus entre eux, vivre ensemble. Alors que dans la Gesellschaft, dans la société, ce qui prévaut, dit Max Weber, c'est le contrat. Et c'est le contrat dont le modèle, en quelque sorte, est le contrat commercial. Business more than ever. Et donc, là, nous retrouvons le thème de la marchandisation. Et il n'est pas sûr, vous voyez, que cette marchandisation ne nous conduise pas, finalement, à être tous les uns à côté des autres. Il n'est pas certain qu'il n'y ait pas là, finalement, un affaiblissement de l'ensemble. Je rentre dans la famille, je prends un exemple. Entrons dans la sphère familiale. Gemeinschaft. Tu aimes bien papa, tu aimes bien maman, tu ne lui veux pas du mal, tu ne veux pas les inquiéter. Énorme chantage affectif de la Gemeinschaft. Énorme pression sur les consciences. Énorme lien en même temps. Car le plus grand lien se trouve aussi dans la possibilité de la plus grande aliénation. Si vous supprimez la possibilité de la plus grande aliénation, vous supprimez simultanément la possibilité du plus grand lien. Donc, je me situe dans la famille. Le lien n'est pas contractuel. Tu aimes bien papa, tu aimes bien maman. Et qu'est-ce que grand-papa va penser ? Ouh ! Régulation des consciences. Régulation affective des consciences. Et que diras-tu demain à tes enfants ? Ouh ! Pression morale. Régulation des consciences. Les pédagogues arrivent, ils disent « ça, c'est méchant, ça, c'est violent, ça, c'est pas possible, ça contient la plus grande aliénation possible. On va mettre la procédure du contrat. » Je dis ça, je prends l'exemple de la famille, on aurait pu prendre l'exemple de l'école et puis s'amuser. Hein. On va vous mettre le contrat à la place, vous allez voir, ça va mieux marcher. Ça va mieux marcher. Alors qu'est-ce qui se passe ? On fait Gesellschaft à ce moment-là. C'est-à-dire qu'on contractualise tous les rapports. Mais par là même, on brise les liens. C'est-à-dire, tout ce qui était fondé sur l'affectivité, la confiance, le partage, tout est écrit. Règle numéro 1, règle numéro 2, règle numéro 3. Tout est formalisé. Et, au bout du compte, cette formalisation, elle présuppose une chose assez folle, d'ailleurs, c'est que nous puissions tous être traités en égaux, parce que le propre du contrat, c'est de faire vivre l'égalité. C'est pour ça qu'on l'aime, le contrat. On aime le contrat parce qu'il fait vivre l'égalité. Mais on ne peut pas l'aimer jusqu'au bout. Parce que précisément, il y a bien des situations dans lesquelles l'égalité en fait est rompue. Il n'y a pas vraiment d'égalité. Entre un père et un fils, c'est une plaisanterie de concevoir une égalité. Faire croire, que le père fasse croire au fils qu'il est son égal, c'est une plaisanterie. Non, le père peut être le père du fils ou il peut être le fils du fils. Mais deux situations inégalitaires. Deux situations fondamentalement inégalitaires. Croire qu'on débat comme ça parce que tu sais papa il en sait pas plus que toi etc c'est à dire que cette fausse égalité, ce semblant d'égalité comme les professeurs qui arrivent en s'excusant de pas savoir plus que leurs élèves etc vous vous en doutez, c'est pas mon cas mais c'est pas quelque chose qui me guette, mais enfin bon vous voyez ce que je veux dire, c'est à dire que là on est sur le contrat mais le contrat, la modalité du contrat commercial quand même, c'est je remonte dans ma R16 et je me dis quand même, ouais, yes. Il y a toujours un peu de violence dans le contrat quand même, c'est pour ça qu'il appelle une négociation. Et il n'y aurait pas de contrat s'il n'y avait d'ailleurs pas en sous-main une espèce de violence, vous voyez, qui est à la fois régulée et qui demeure en même temps dans la relation contractuelle. Il ne faut pas qu'on nous raconte d'histoire. Donc, c'est plus sérieux que le conflit pour moi, le contrat, vous voyez. Le fait que la société devienne de part en part contractuelle, on pourrait s'en réjouir comme ça, vite fait. En fait, il n'est pas certain que ça ne contribue pas à constituer une société dans laquelle les individus sont tous les uns en face des autres. Tous, finalement, animés par la revendication de leurs propres droits, droits conformes à un règlement ou pas. Et ça donne ce merveilleux dessin du New York Times, absolument magnifique, où on a une salle de réunion, Donc vous avez un comité exécutif, comité de direction qui est réuni, et puis vous avez le boss qui rentre avec son petit cartable. Ils sont tous pareils. Il y a le boss qui rentre avec son petit cartable. Il y a un gars à côté de lui qui ressemble à d'autres gars qui sont autour, pareil. Et le boss dit, est-ce que vous pouvez vérifier, est-ce que chacun peut vérifier qu'il a son avocat, je me retrouve avec deux. Voilà. Est-ce que chacun peut vérifier qu'il a son avocat, je me retrouve avec deux. Alors, ça ne vous fait pas rire. Bon, je vois que c'est raté. C'est pas grave. Bon, j'ai l'habitude des gros bides, mes élèves. Mais je vous assure qu'en fait, c'est très drôle. Mais c'est pas grave. Ça ne restera pas entre nous. Mais c'est très drôle, en fait. C'est-à-dire que, évidemment, la présence de l'avocat est bien là pour dire que la relation contractuelle est une relation dans laquelle chacun est fondé donc à réclamer ses droits et même donc à médiatiser cette défense par un avocat pour la famille, un avocat pour etc. etc. Bien. Alors évidemment, tout ça, ça donne des rapports qui sont un peu trop métalliques. Vous voyez, la société marchande comme ça produit des rapports qui sont trop métalliques. Alors on va faire un petit saupoudrage sur le métal. On va mettre un peu de sucre sur le métal pour dire on n'est quand même pas des sauvages et les relations ne se réduisent pas quand même à des négociations entre avocats. Ça va bientôt nous arriver d'ailleurs dans l'école. Hein. Moi j'ai le mien, enfin je ne sais pas toi, mais moi j'ai déjà le mien. C'est mon frère. Bon, mais enfin, il n'empêche qu'il faut faire attention. Et donc, le saupoudrage qu'on va faire, c'est la fameuse convivialité. Et alors, convivialité, ça m'intéresse parce que c'est presque la même chose que vivre ensemble. Donc, plus les rapports sont métalliques, plus on saupoudre de convivialité. Eh les gars, allez, la pêche, ouais, tous ensemble, tous. Mais en fait, chacun a quand même son avocat. Derrière lui ou derrière la porte, prêt à dégainer. Hein ? Et donc, ça donne cette chose un peu schizophrène et un peu bizarre, vous voyez, d'une société dans laquelle tout est négocié. Le gosse, depuis l'âge de 3 ans, il va entrer dans la négo avec ses parents. Tout est négocié avec son avocat, bien sûr. Dans une société dans laquelle tout est négocié, tout est métallique. Et en même temps, donc, tout ça dans un espèce de youpla-boum débridé, une ambiance Club Med, vous voyez, où on a de l'empathie, on s'embrasse sur la bouche, on se dit qu'on s'aime, on a une empathie vraiment phénoménale, mais en fait, derrière, c'est du métal. Et il suffit qu'on se retrouve d'ailleurs un peu seul, le dimanche soir, après 19h, juste après Drucker, pour se rendre compte que c'est du métal, en fait. Et que le saupoudrage ne suffit pas à sauver tout le bazar. Non, le soldat Ryan n'est pas sauvé. Donc ça, c'est un propos, à mon avis, un peu plus sérieux. Pardon, je ne suis pas très sérieux, mais c'est quand même, à mon avis, un peu plus sérieux. Il y a une troisième donnée, encore plus sérieuse, c'est la société du silo générationnel. Ça, c'est assez sérieux. Ça, c'est assez sérieux, parce qu'évidemment, vivre ensemble, alors c'est vivre tous ensemble, si les citoyens, les sujets, enfin tout le bazar, se trouvent dans des silos générationnels, alors ça c'est très embêtant. Alors c'est ce que les sociologues semblent dire, j'ai pas beaucoup d'avis là-dessus, parce que mes élèves ne me semblent pas particulièrement enserrés dans des silos générationnels, mais enfin pourquoi ne pas écouter les sociologues? Dans le fond, ils disent pas plus de conneries que les autres, enfin un peu plus peut-être, mais pas beaucoup plus. Donc l'idée du silo générationnel, c'est quoi? C'est l'idée qu'une société technologique est une société dans laquelle le passé est très vite dépassé. Et le passé étant très vite dépassé, il y a une rupture radicale qui s'opère entre ceux qui sont dans le présent des inventions, les jeunes, comme on dit, les geeks, les hipsters, je dis des mots dont je ne comprends pas le sens, mais vous me corrigerez. Les jeunes qui sont dans le move de l'invention technologique, et puis il y a ceux qui sont complètement dépassés, moi, et qui sont dès lors renvoyés dans le passé. Alors, pourquoi c'est sérieux? Parce qu'en fait, ça affecte les cadres de la représentation. Ce qu'on est en train de comprendre, c'est que l'univers technologique, l'univers informationnel et technologique, l'univers du web, l'univers 3.0, 4, je sais, bon, dans lequel nous sommes, c'est un univers qui tend à définir, dessiner en tout cas, pas déterminer sûrement pas, mais à dessiner des cadres intellectuels dans lesquels des opérations intellectuelles sont favorisées et d'autres sont éliminées. Je vous donne un exemple très simple. J'ai eu un coup de téléphone cet après-midi d'une école de management, moins prestigieuse que l'EM, pardon Philippe, moins prestigieuse que l'EM, mais une petite école de management lyonnaise, qui me dit, voilà, je recrute après bac et j'ai d'énormes problèmes parce que mes étudiants ne comprennent plus ce que c'est qu'un raisonnement linéaire. Ils ne savent plus raisonner de manière linéaire. Donc, ainsi, puisque, en effet, car, ça flue. Et donc, ça ne me gêne pas tellement, parce que, bon, ça... Mais ce qui m'ennuie, c'est qu'évidemment, je ne peux pas leur produire un texte. Je ne peux pas les faire travailler devant un texte, parce qu'un texte, en principe, si ce n'est pas du nouveau roman, bon, c'est un texte, en principe, il y a une linéarité. Et comprendre un texte, c'est comprendre son début, c'est comprendre qu'il y a, il y a des arguments qui définissent donc une trame argumentative, je ne sais pas comment on appelle ça en français, mais enfin bon, un parcours argumentatif, et puis une conclusion. Et donc, c'est, voilà. Est-ce que le Collège supérieur, c'est quand même merveilleux que cette maison soit sollicitée pour ça, je m'en réjouis, mais est-ce que cette maison pourrait trouver, Paul-Étienne, je voulais t'en parler, donc est-ce que cette maison pourrait trouver quelqu'un qui aurait un art du raisonnement suffisant pour initier mes élèves, mes étudiants, là, de première année, après bac, hein, donc le bac, hein, au raisonnement linéaire. Mais alors, qu'est-ce qui se substitue au raisonnement linéaire ? Eh bien, une forme de non-linéarité. C'est comme l'évolution, elle est en buisson. Eh bien, fait pareil, les intelligences, maintenant, sont buissonnantes. Elles sont, on sait bien que l'évolution, vous savez, n'est pas linéaire, elle est buissonnante. Eh bien, là, c'est pareil, l'intelligence est buissonnante. C'est-à-dire qu'elle procède par connexion d'images, elle procède par conjonction, par rapprochement de termes, par intuition, mais enfin, une intuition qui est très visuelle. Donc, vous voyez que c'est à prendre très au sérieux, cette affaire des cadres. Ça veut dire qu'il y a peut-être, en effet, les sociologues ont raison, j'en sais rien, mais des silos générationnels qui sont en train de se faire, avec des gens qui ont des cadres intellectuels, disposés en quelque sorte, ou qui les disposent à la reconnaissance de raisonnement linéaire, et puis d'autres qui sont dans le visuel. Alors si c'est vrai, attendez, ça change un paquet de choses aussi du point de vue de l'enseignement, de ces modes, bref, tout dépend de ce qu'on cherche aussi. Mais ça, vous voyez, donc ça me paraît être un point tout à fait important, parce que ça signifie qu'en effet, celui qui appartient au passé ne peut pas du tout comprendre, finalement, les modes de pensée de la jeunesse d'aujourd'hui, comme disent les vieux cons, et inversement, donc, un jeune, sans qu'il y a entre lui et quelqu'un de la génération qui le précède, plus de distance qu'il y a entre un terrien et un martien. C'est pour ça qu'il nous regarde avec des yeux étranges. Les yeux étranges qu'ils font, d'ailleurs, lorsque, par exemple, on sort notre téléphone portable et qu'on le manipule. Car on le manipule comme des vieux. Et il y a une toute autre manipulation, en effet, pour la génération qui est née après 2005. Bon. Donc ça, c'est une troisième idée, vous voyez. Le tous ensemble, en effet, là, il y a quelque chose, en effet, qui agresse, vous voyez. Et en même temps, vous vous dites, mais c'est n'importe quoi, le vivre ensemble, on l'énonce jamais dans ce domaine-là. Et vous vous dites, mais quand est-ce qu'il va en venir au vrai cœur du problème ? Bon, attendez, doucement. Il y a une quatrième idée, et un quatrième fait, en quelque sorte, sociologique, qui me paraît aussi contribuer au délitement du corps social, c'est que, cet exposé en est la preuve, nous sommes de plein pied, donc, dans l'ère de la dérision et du comique. Tout doit être un peu comique. J'en suis à ma dixième plaisanterie. Il n'y a que M. Chavelet qui, tel le Buster Keaton de la philosophie, n'esquisse jamais un sourire et produit son analyse avec une sobriété exceptionnelle. tous les autres s'essayent un peu au rire. Pourquoi ? Pour obtenir l'adhésion de l'auditoire, sur d'autres fondements que des fondements strictement rationnels. Alors voilà, nous sommes dans l'ère du comique, nous sommes dans le règne de l'anounisme. Anouna, oui. Et alors peut-être bien que c'est le point le plus sérieux. Peut-être que c'est le point le plus sérieux. Le fait que nous soyons dans la société de la dérision et du rire. Parce que dans la logique du rire, on est toujours le bouffon de quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que le rire, comme le voit merveilleusement un des plus grands auteurs français, à la fois par la pensée et par l'écriture, le rire est un facteur de division sociale. Je ris de l'autre. Le rire n'est pas un facteur de cohésion sociale, bien que le rire soit conformiste. Il n'est pas un facteur de cohésion sociale, il est un facteur de division sociale. Et il est toujours possible, à chaque instant, dans la société du rire, de se foutre de la gueule de celui avec qui je viens d'échanger. C'est même, au fond, à quoi se lie ma liberté, à la capacité de rire de l'autre. C'est même la mesure de la souveraineté du sujet. Rire le dernier, rira bien, qui rira le dernier, eh bien nous en sommes là. Jusque-là, ce proverbe n'avait qu'une signification proverbiale, eh bien il devient l'adage par lequel la société se dit elle-même. Rira bien, qui rira le dernier. Rire en dernier. Ça, c'est très sérieux pour moi. C'est très sérieux parce que, voilà, j'évoquais tout à l'heure un grand auteur par le style et par la pensée. Je veux bien sûr parler de Jean-Jacques Rousseau. Vous savez que Rousseau, il y a une querelle formidable qui a opposé Rousseau à un auteur de l'encyclopédiste qui s'appelait D'Alembert, hein, D'apostrophe, et qui était un grand mathématicien, qui a été donc un rédacteur avec Diderot, vous le savez, donc de l'encyclopédie. Et D'Alembert, pour son plus grand malheur, parce qu'il ne va pas en sortir grandi, ou vainqueur en tout cas, D'Alembert reçoit la tâche de rédiger l'article Genève, la ville, dans l'encyclopédie. Et au passage, il raille, le pauvre, s'il avait su, la constitution de Genève qui interdit les théâtres. Au nom de quoi pourrait-on dire ? Eh bien, nous pourrions le dire en chœur ce soir, tous ensemble, au nom du vivre ensemble. La constitution de Genève interdisait, au mi-temps du XVIIIe siècle, les théâtres, au nom du fait que le rire est destructeur de l'espace social. Il n'y a pas de lien plus corrosif de l'espace social. Ah oui, on est rendu. Et alors, D'Alembert se moque de cette constitution, donc, qui raille, se moque de cette constitution qui interdit, donc, pardon, les théâtres. Rousseau, évidemment, prend la plume et rédige un des plus grands textes. J'espère que les philosophes dans la salle seront d'accord avec moi. Je suis prêt à en débattre. Vraiment, un des plus beaux textes, un des textes les plus denses, les plus intelligents, les plus astucieux, les plus habiles, les mieux écrits de la langue française, qui s'appelle « La lettre à D'Alembert ». Et il faut vraiment, toute séance tenante, se plonger dans ce texte absolument admirable. Il y a un grand connaisseur ici, je le sais. Max, je te salue. Grand connaisseur de ce texte. Mais ça, vraiment, il faut lire ça. C'est absolument admirable. Et, en fait, Rousseau dit, voilà pourquoi, en fait, la Constitution de Genève est pleine de sagesse. Hein? Précisément parce que, au spectacle, et alors ça, c'est quand même une sacrée leçon pour nous, au spectacle, il faut préférer la fête. Car le spectacle met à distance, le spectacle divise, le spectacle fait de nous les observateurs curieux, bizarres et amusés les uns des autres, alors que la fête nous rassemble, alors que la fête nous réunit. D'ailleurs, nous le savons bien, puisque nos rapports sont de plus en plus métalliques. On fête à tout va. On sait bien que la fête, c'est le moyen formidable de restauration du vivre ensemble, dans le saupoudrage dont je parlais tout à l'heure, de la convivialité. Quel est le bras armé aujourd'hui de la convivialité, si ce n'est la fête? Trouvons une occasion de faire la fête et le soldat Ryan sera sauvé. Faisons la fête. Eh bien, nous sommes de ce point de vue-là les descendants de Rousseau, même si Homo Festivus de Muret, tu auras à nous le dire sûrement, et la fête de Rousseau, ce n'est pas tout à fait la même chose, vous voyez. Le modèle de Rousseau, c'est ces grandes fêtes de la Saint-Jean, où toute la communauté villageoise se retrouve autour des feux, dans une sorte d'égalité, dans une presque égalité, rendue possible par la vie simple. Rousseau est un très, très grand auteur pour notre époque. Et si notre époque est celle de l'hubris, de l'excès, dans une multitude de domaines, il faudrait que l'on relise Rousseau comme l'auteur même, comme le philosophe fondateur de la vie simple. Et ça permettrait de donner peut-être à l'écologie, aux différentes doctrines écologiques qui manquent singulièrement de doctrines, justement, et de concepts, le fond conceptuel sur lequel se solidifier et se justifier. Lisez cette lettre à D'Alembert, elle est absolument magnifique. Donc, au fond, vous voyez, en crescendo, en quelque sorte, j'ai parcouru avec vous les différents faits sociologiques qui me paraissent, du plus faible au plus sérieux, en quelque sorte, rendre compte, donc, de ce délitement du lien social. Tous ces facteurs sont des facteurs de dissolution. Et pourtant, et je voudrais terminer par là, je suis dans les temps. Tous ces facteurs sont des facteurs de dissolution. Mais, il me semble que ces facteurs de dissolution sont neutralisés tant que la société demeure à peu près homogène. Je veux dire par là que la diversité n'est une richesse que sur fond d'unité. Qu'il y ait dans la société une très grande diversité, une diversité bruissonnante, cela est une richesse à condition que cette diversité buissonnante soit ramassée par un fond d'unité, par quelque chose qui assure, en quelque sorte, son unité. C'est me semble-t-il, vous voyez, le point crucial de ce vivre ensemble. Si on veut comprendre le vivre ensemble, la préoccupation que nous avons pour ce vivre ensemble, ce que nous avons à comprendre, c'est dans quelle mesure toute diversité est une richesse sur un fond d'unité. Le fond d'unité, c'est la relative homogénéité de la société. Tant que la société est relativement homogène, elle peut supporter plein de choses. Elle a une résilience, comme dirait l'autre, formidable. Les choses deviennent plus complexes quand cette société devient hétérogène. Alors là, bien sûr, la question qui vous brûle les lèvres, c'est alors c'est quoi qui détermine, c'est pas tellement du français tout ça, mais qu'est-ce qui détermine l'homogénéité d'une société? Qu'est-ce qui fait l'homogénéité d'une société et qu'est-ce qui fait son hétérogénéité? Eh bien, je vous réponds comme a répondu l'ancien taulier de ce hangar dans les cahiers du collège numéro 63, un éditorial tout à fait remarquable comme d'habitude, dont le titre était « La loi et la loyauté ». Jean-Noël Dumont, dans cet éditorial, je lui rends hommage, dans cet éditorial, Jean-Noël Dumont nous faisait comprendre une chose. C'est que l'unité d'une société se structure autour de ses mœurs, autour de ses usages, autour d'une certaine manière d'être au monde, autour d'habitudes, de comportements tellement réglés qu'on les croit naturels et qui sont comme des règle, disait-il, de loyauté. Autrement dit, les sociétés peuvent accepter les diversités les plus agitées, les plus folles, à condition que ces diversités prennent naissance sur le terrain unifié de leurs mœurs. Alors il y a un pays en Europe, qui, à mon avis, sait faire ça, c'est-à-dire qui associe une conception incroyablement libérale liée à une formidable diversité et en même temps un sens puissamment conservateur lié au sens du peuple, c'est l'Angleterre. Vous vouliez savoir pourquoi l'Angleterre se portait mieux que nous ? Vous vouliez savoir pourquoi l'Angleterre ne crie pas à tous les coins de rue « Le vivre ensemble, le vivre ensemble, le vivre ensemble ». Eh bien, c'est parce qu'elle associe ce développement buissonnant de la diversité à un fond d'usage réglé, au fond, par les mœurs, que les plus libéraux des libéraux, bien évidemment, voudraient liquider, sous prétexte que mettre des chemises à boutons de manchette, ça appartient à une autre époque. Ce qui sauve les Anglais, c'est qu'ils continuent majoritairement à mettre des boutons de manchette à leurs chemises. Ça s'appelle l'usage. Et en Angleterre, on ne plaisante pas avec les usages. Alors, qu'est-ce qui nous est arrivé à nous autres, alors, du point de vue des mœurs ? Et je voudrais terminer par là. Deux phénomènes. Deux phénomènes ont fait que nous avons perdu cette homogénéité des mœurs, de telle sorte que nous faisons face maintenant à une diversité dont on ne sait plus quoi faire. Alors, évidemment, on dit « vivre ensemble, c'est le vivre ensemble, il faut du vivre ensemble ». Mais personne n'a le plus petit début d'une solution pour activer en quelque sorte ce vivre ensemble. Je crois qu'il y a deux mutations de ce point de vue-là qu'il faut bien comprendre pour comprendre cette revendication inquiète et qui concerne particulièrement la France, je le disais tout à l'heure. D'abord, premièrement, première mutation des mœurs, une crise des mœurs. Une crise des mœurs, alors qui est caractéristique là aussi de la modernité, je ne sais pas la France en particulier, mais tout se passe finalement comme si les mœurs, comme si donc ces manières d'être, ces habitudes définissant l'éthos d'un peuple, cette manière d'être définissant l'éthos d'une société ou l'éthos d'un peuple, avait été renvoyé en quelque sorte du côté du passé, n'avait pas résisté justement au pluralisme des conduites, au tsunami du « c'est mon choix ». C'est-à-dire que là, vous voyez, je relis la crise des mœurs et l'épopée de la liberté. Il y a une épopée de la liberté qui a, au fond, tout balayé sur son passage. Une épopée de la liberté qui a fait que chacun a voulu être le souverain décideur de lui-même, c'est mon choix. C'est le prestige de l'expression « c'est mon choix ». Chacun est appelé à se choisir lui-même. Les mœurs donnaient un modèle, pour ainsi dire, à reconduire. C'est mon choix. A contribué à liquider, au fond, ce fonds commun et à déclarer « je suis le fabricateur de moi-même, personne ne décidera de ma conduite ». Alors vous ajoutez à cela l'impératif de la jouissance immédiate et puis voilà, les sont jetés, vous voyez. Vous associez cette liberté au jouir maintenant, tout de suite et pas demain et vous avez donc un privilège formidable accordé à l'instantanéité, vous voyez, c'est à la posture de la liberté dans l'instant, qui liquide donc toute référence au temps long des mœurs. Je vis avec une girafe, c'est mon choix. Soit, je n'ai rien à dire, c'est la souveraineté du sujet qui s'expose lui-même et qui, s'exposant lui-même, se dit lui-même, dont acte. Alors jusque-là, ça vous est marré, mais maintenant, ça ne va pas vous faire marrer. Pourquoi ? Parce que ceux qui étaient porteurs de cette dialectique de la liberté et des mœurs, là vous avez moins à rire, et moi aussi, ceux qui étaient porteurs de cette dialectique de la liberté et des mœurs, je n'hésite pas à le dire, c'était la bourgeoisie. Notre société ne cesse de dire vivre ensemble, vivre ensemble, vivre ensemble, en raison de la faillite de la bourgeoisie. Et ça, c'est moins drôle. Les bourgeois n'ont pas tenu leur rang. Voilà ce qui s'est passé dans les 40 dernières années. La bourgeoisie n'a plus tenu son rang. La bourgeoisie a dit « business more than ever ». Tel a été son idéal. Cela a toujours été, les bourgeois, c'est les marchands. Très bien, très bien. Elle a dit « business more than ever ». Mais, en même temps, elle est devenue bohème. Bourgeois, bohème. Le phénomène, pour moi, socialement, le plus marquant des 40 dernières années est celui qui explique en partie la situation du vivre ensemble, ce sont les bobos. C'est marrant, vous pourriez dire, mais non, c'est un phénomène marginal, etc. Pas du tout, je suis prêt à le défendre. Pas du tout, ce n'est pas un phénomène marginal, c'est un phénomène massif, c'est un phénomène majeur. Il suffit de regarder autour de soi. Une bourgeoisie qui avait, pour ainsi dire, la responsabilité des mœurs, qui avait l'aisance telle qu'elle pouvait porter la responsabilité des mœurs et qui a renoncé à cette défense, qui a renoncé à cette transmission, qui est devenue une bourgeoisie bohème, passant d'un côté au tiroir-caisse et de l'autre côté assumant une forme de libertarisme. C'est nous qui avons renoncé à tout. Ça, c'est moins drôle, hein. C'est nous qui avons liquidé tout ça. Après, on dit, il n'y a plus de jeunesse, c'est des couillons, ils ne savent pas que ça. Mais attendez! Comment une société peut-elle survivre à une bourgeoisie qui devient bohème? Eh bien, à mon avis, elle ne le peut pas. Elle ne le peut pas parce que dans le même temps, on aurait pu dire, oui, mais il y a quand même une classe ouvrière. Mais non, elle a été liquidée, elle aussi. Donc les deux classes structurantes, la bourgeoisie et la classe ouvrière, il y en a une qui a disparu, la classe ouvrière, et il y a l'autre qui a précisément renoncé à son propre devoir social et est entré dans un individualisme plus débridé que jamais. C'est une hypothèse, je vous la livre comme ça, je durcis un peu le ton pour, voilà, pour me donner du courage, mais en fait, voilà, c'est un point qu'il faudrait discuter. Le bobo, c'est le mélange du business et du jouir à la demande. Voilà le premier paradoxe. C'est lui qui réclame plus de vivre ensemble. C'est le bobo qui réclame plus de vivre ensemble. C'est le bobo qui, dans le 9e arrondissement de Paris, une fois qu'il a acheté son poulet 50 euros le kilo, rue du Dragon, rue des Martyrs. C'est lui qui réclame le vivre ensemble. C'est lui qui écrit des tribunes dans Libération en disant « Le vivre ensemble est en panne, quelle horreur !» Mais c'est lui qui en même temps, le volatilise, le pulvérise. Donc voilà le premier paradoxe. C'est celui qui réclame plus de vivre ensemble qui, en même temps, en est le liquidateur. C'était ma première idée. Deuxième idée. Deuxième idée, deuxième mutation. La première mutation, donc, c'est les mœurs sont entrées en crise. Bon, ben voilà, ils sont entrés en crise. Maintenant, est-ce qu'on peut dire, oui, on va remettre des mœurs, etc. Peut-on le faire hors du cadre communautaire? Il y a des auteurs américains, Étienne pourrait nous en parler mieux que moi, qui sont les promoteurs de cette idée. Tout ce qui est possible, c'est finalement la constitution de communautés vertueuses, des communautés vertueuses. Le vivre ensemble, baratin, on n'y arrivera pas. Tout ce qui reste à faire, c'est à promouvoir des communautés vertueuses. Mais vous voyez bien que c'est un modèle qui est inacceptable pour la France. Je vais vous l'expliquer maintenant. Deuxièmement, donc, deuxième problème pour les mœurs. C'est pas seulement que les mœurs sont entrées en crise. Ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème, c'est que les mœurs sont devenues, au sein même de la nation française, hétérogènes. C'est ça le vrai problème. Les mœurs qui étaient précisément ce sur quoi, ce par quoi, la diversité, notre grande diversité de formation, de classe sociale, de conviction, etc., pouvait être une richesse dans le grand débat national. Le problème, c'est que ces mœurs, non seulement sont entrées en crise, mais sont devenues hétérogènes au sein même de la nation. Et cela, c'est lié, vous le savez, au surgissement de la société multiethnique, qui est un phénomène pour nous relativement récent. Société dite multiculturelle, mais en fait, c'est une rigolade, c'est pas une société multiculturelle, c'est une société véritablement multiethnique. Et pourquoi est-elle multiethnique ? Parce que nous savons que si nous avons raté un truc en France, c'est bien l'intégration. Alors ça, c'est aussi un propos très polémique. Est-ce qu'on l'a raté ? Est-ce qu'il faut se flageller en disant on a raté l'intégration ? Ou est-ce que c'est les autres qui n'ont pas voulu s'intégrer, etc. Écoutez, moi, j'ai quelques souvenirs d'enfance qui me font dire quand même qu'on a bien queuté l'intégration. Je n'en veux pas à mes parents, mais je pense qu'on a quand même un peu raté l'intégration, quand même. J'ai des souvenirs d'école. J'étais à l'école publique. J'ai des souvenirs scolaires, quand même, qui me réveillent encore la nuit. Non, ça ne me réveille pas la nuit. Mais enfin, j'ai des souvenirs, quand même, d'école qui résonnent en moi comme des violences absolument terribles, terrifiantes, qui auraient emmené dans la délinquance le gars qui voulait se faire curer. Quoi. Il serait parti forcément dans la délinquance. 61, c'est mon année de naissance. Donc 66, 7, vous voyez, je suis 7, 8, là, je suis à l'école primaire. Même 70, je n'étais pas très précoce. Non, je plaisante. Mais j'étais à l'école primaire. Comment est-ce qu'on traitait les Algériens rapatriés dans l'école primaire ? Comment peut-on intégrer un peuple qu'on prive de mémoire ? Parce que les mœurs, c'est la mémoire aussi. On leur a mis quoi ? Le pacte républicain devant la figure ? On leur a mis les lois de la République ? Mais simultanément, on les privait de mémoire ? Vous connaissez une intégration qui est possible quand on prive celui qu'on intègre de mémoire ? Quand on lui prive de mettre des mots sur ce qu'il a vécu, vous pensez que c'est possible, ça ? Et là, je vous dis ça parce que je fais le malin, mais je me suis fait cartonner dans un café philo, justement, que j'animais à Place des Terreaux, autour de la mémoire, etc. Et j'ai reçu cette leçon d'un Algérien qui est venu me parler à la fin du truc et qui m'a dit ça, mais de manière très gentille, de manière vraiment sans aucune agressivité. Il m'a dit, mais attendez, vous rigolez quand même. Vous pensez vraiment qu'on peut intégrer un peuple alors même qu'on le prive de sa mémoire, voire même de sa religion, en lui jetant devant les yeux le pacte républicain et laïque ? C'est pas métallique, là. C'est, je sais pas comment on pourrait dire. C'est pire que métallique, quoi. C'est plus métallique que métallique. Donc, il y a eu, si vous voulez, cette hétérogénéité des mœurs. Et donc, je l'évoque à l'instant, ce pluralisme religieux, la communauté musulmane, on la découvre aujourd'hui, les journalistes écrivent la communauté musulmane. Mais moi, les copains avec lesquels j'étais, ils étaient musulmans. Ils n'étaient pas chrétiens. Ils formaient déjà une communauté musulmane, on en parlait ? Non, pas du tout. On parle aujourd'hui de la communauté musulmane et du vivre ensemble. C'est simultané, c'est marrant, ça. C'est quand même très curieux. C'est un réveil très tardif. Donc ce pluralisme religieux, au fond, il a été abordé par la France, c'est pour ça que j'évoque la France. Il l'a été, je le dis volontiers devant Max Toselli, ça m'amuse même de renforcer le trait, qui est un laïc convaincu. Eh bien, ce pluralisme religieux a été abordé, monsieur Max, de par un esprit laïque, de mépris du religieux, au pire, et d'incompréhension du religieux, au mieux. Et donc, ça ne pouvait pas marcher, si vous voulez. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire que le deuxième paradoxe, c'est que, et je terminerai là-dessus, et je vous donne volontiers la parole, le premier paradoxe, c'est que le bobo qui réclame le plus le vivre ensemble, c'est lui qui le liquide. Et deuxièmement, le deuxième paradoxe, c'est que c'est l'esprit laïque qui réclame le vivre ensemble, au nom précisément de la laïcité, des principes de la République, etc. C'est l'esprit laïque qui réclame le vivre ensemble. Et c'est lui, en même temps, l'esprit laïque, qui a ignoré la radicalité du problème qui nous était posé et qui est complètement passé à côté, justement, de ce que comportait de nouveau, de radicalement nouveau, le pluralisme religieux et le pluralisme des mœurs d'une société qui ne pouvait plus, dès lors, dans une telle ignorance, devenir véritablement multiculturelle, mais qui n'avait qu'une solution, c'est de devenir multiethnique. Je vous remercie beaucoup de votre attention.